Saviez-vous que l'autre histoire de Genève, une chronique insolite présentée par Carlo Ruexeger.
Saviez-vous que plus long que d'habitude, avec un texte de 1835 environ, qui traite des cultes à Genève. Ne soyez étonné ni du style, ni de l'écriture de cette chronique. Je vous la restitue dans son jus, l'époque dans l'époque. Mais vous pourrez constater des similitudes curieuses avec notre époque, qui j'espère vous laissera un peu pensive sur l'évolution des mentalités. À l'époque que nous décrivons, la majeure partie de la population pratiquait le culte protestant. Si les réformés étaient attachés à leur église, cela tenait beaucoup au souvenir des persécutions subies par leurs ancêtres, car presque tous les Genevois descendaient de réfugiés lors de la révocation de l'édit de Nantes, joints aux habitants des autres parties du territoire formant l'ancienne République. On comptait à Genève en 1830, sur une population de 35 000 habitants environ, 25 000 protestants. Les pasteurs étaient très bons, très estimés pour leur bienfaisance et, vu la confiance qu'ils inspiraient, beaucoup de personnes aisées mettaient à leur disposition des sommes assez conséquentes. Ça a bien changé. Le bruit de ces générosités se répandant, les pauvres des cantons de Vaud, Neuchâtel, de la Savoie et du pays de Gex accouraient à Genève pour s'y établir ou y commander. La majorité de ces gens étaient de faux pauvres, ayant les pieds plats et palmés, les chines flexibles et la langue mielleuse. Ils obtenaient donc facilement de ces bonnes âmes des secours en abondance. De nos jours, il y a encore une légion de ces hypocrites qui sont bien installés dans leur intérieur, un journal à la main et la Bible ouverte sur la table. Que le pasteur frappe à la porte, le roman disparaît aussitôt sous l'oreiller, et le respectable prêtre, voyant le Saint-Livre en lecture s'évanouit de joie, les console et leur feint affection, fait une prière et dépose son offrande, qui se compose toujours de quelques pièces de 5 francs, accompagnées de bons de combustible, de pain, de viande et d'épiceries. Citons ici un exemple de la désinvolture et du sans-gêne de quelques assistés. Le bon et vénérable pasteur Bordier secourait une famille composée du père, de la mère et de 5 enfants. On ne mangeait pas alors à la cuillère dans ce ménage, mais avec un peu d'économie, on aurait pu nouer les 2 bouts, le père gagnant 6 francs par jour. Tant qu'il y avait de l'argent, on faisait bombance, et les 3 ou 4 derniers jours de la semaine, eh ben on faisait chiche. Quand le digne pasteur susnommé apprit la chose, il monta chaque vendredi à leur pigeonnier et leur apportait 15 francs. Un jour, une bonne voisine l'attendit sur l'escalier, le priant d'entrer chez elle. Alors elle lui dit « Monsieur le pasteur, vous encouragez des noceurs par vos charités. » Après explication, le prêtre revint le samedi soir vers les 8 heures. Sur le palier, il entendit des bruits de fourchettes, des éclats de rire et sentit des odeurs capiteuses. Il était là depuis 5 minutes quand tout à coup le chef de la famille se leva, le verre en main et s'écria « À la santé de Bordier !» Le pasteur entra et dit « Je vous remercie, monsieur, de votre toast et pour vous prouver ma reconnaissance, « je ne reviendrai plus vous déranger. » Il tint parole et ne remonta jamais vers ses joyeux assistés. Les luthériens pratiquaient paisiblement leur religion, ne s'occupant que de leurs malades, de leurs pauvres et de l'instruction des catéchumènes, sans faire de prosélytisme. Nous n'en dirons pas autant des anglicans. Sans médire des fils d'Albion, on est forcé de reconnaître que cette nation est envahissante. Citons comme preuve l'armée du salut. Ces insulaires aux grandes dents vinrent donc implanter le méthodisme à Genève, à force de prédications en plein air. Dans la campagne gaussonne à la Servette, un missionnaire, M. Radcliffe, parvint à pervertir, non à convertir, un certain nombre de personnes choisies parmi les esprits faibles, enclins à croire au surnaturel, gens d'une entière bonne foi, prenant l'évangile à la lettre. Ces croyants étaient persuadés et soutenaient, ce dogme absurde que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Ces églises séparées, car il y en avait d'autres, subvenaient elles-mêmes aux frais de leur culte. Donc, rien à dire, sinon que le peuple n'aimait pas ces gens maigres, aux figures ascétiques, et le sourire béat sur les lèvres. Saviez-vous qu'un des aspects des cultes à Genève résulte de la présence des Israélites au début 19e, peu ou pas connue de nos contemporains et qui fut bien présente, d'abord hors mur, comme vous allez le découvrir dans ce texte mi-historique, mi-anecdotique. Anciennement, les Israélites résidaient à Carouge, au nombre d'une centaine, ayant une synagogue et un cimetière, le cimetière étant situé à la Fontenette, et qui est toujours visible de nos jours, mais qui est maintenant à Verrier. Donc, une loi de 1816 excluait du droit de cité tous les habitants qui n'étaient pas chrétiens. En 1832, un édit permit aux Juifs de réclamer contre cet arrêt. Le Grand Conseil fit droit à leur demande, puis en 1857, il leur accorda les mêmes prérogatives qu'à tous les étrangers honnêtes résidant dans le canton. Les Juifs, presque tous commerçants, sont formés en communauté qui a pour administrateur un des membres les plus respectés et les plus dévoués. C'est le Parnesse, on l'appelait comme ça à l'époque, on pourrait le considérer maintenant que ça pourrait être un rabbin. Celui-ci a la charge de venir en aide aux malheureux, soit dans leur maladie, soit dans leur négoce. Citons ici une anecdote bien typique. Il y avait une grande foire à Vevey. Deux colporteurs israélites allèrent séparément trouver un grand négociant leur coreligionnaire. « Oi, monsieur Salomon !»« Oi, Moshe ! Avez-vous quelques bons articles à me confier pour la foire de demain ?»« Oui, Moshe, j'ai une bannette de gants de laine que je te laisserai à 20 centimes la paire. Si tu ne peux pas les vendre, fais un échange contre de l'autre marchandise, mais ne les rapporte pas !» Une heure après, même visite de l'autre forain. « Oi, monsieur Salomon !»« Oi, Dayoud !» Même demande de celui-ci et même réponse du marchand en gros, qui lui offre une caisse de bonnets de fourrure légèrement piquée des mites. « Je te les céderai à 25 centimes la pièce !» En faisant la même observation relative à l'échange, dans le cas probable où il ne pourrait les liquider. Nos deux camelots s'installent sur le champ de foire. Puis le soir, sans s'être revus durant la journée, ils se rencontrent à l'hôtel. Surprise des deux collègues. « Oi, Moshe ! Oi, Dayoud ! As-tu bien vendu ?»« Oui, et toi ? Moi, je suis très content. Voilà ce qui me reste. Si tu veux, nous ferons un échange. »« Je veux bien. » Et voilà le lendemain, nos deux hits chez M. Salomon qui les questionnent. « Oh, nous n'avons rien vendu, mais nous avons tout de même fait une bonne affaire. Voilà, Moshe m'a donné ses gants contre des bonnets de fourrure. Comme vous m'aviez recommandé de faire un échange dans le cas où je ne pourrais vendre ces objets, j'ai accepté l'offre de mon ami. Il ne restait plus à M. Salomon qu'à dédommager ses deux clients. C'est ce qu'il fit de bon cœur en s'esclaffant de rire, comme aurait dit Rabelais. » Rappelons qu'au XIIIe siècle, les Juifs étaient parqués autour de l'église de Saint-Germain. Il était d'usage partout à cette époque de leur attribuer un quartier ou une rue que l'on fermait à la nuit au moyen de chaînes tendues à chaque entrée ou sortie, afin de leur empêcher toute communication au dehors après le coucher du soleil. Leur cimetière était à Châtelaine. L'autre partie de la population est composée de catholiques. Ceux-ci avaient à leur tête le curé Voirin, esprit serpenteux qui, détestant cordialement les hérétiques, aurait bien voulu les prendre avec des pinces en fer rougies au feu pour les remettre dans le bon chemin, les faire rentrer dans le giron de la Sainte Église romaine. Il est mort, c'est ce qu'il a fait de mieux pendant sa vie. À ses obsèques, tous les évêques des pays voisins suivaient sa dépouille mortelle, accompagnés des curés et des habitants des communes environnantes, enfin de tous ceux qui mangent le bon Dieu, sans songer qu'ils en feront la digestion. On avait battu la caisse sur le ventre de ce mort truffé pour en faire une réclame monstre. On remarquait à la tête du cortège un bel homme en habit rouge, chapeau gancé, porteur d'une hallebarde. C'était le Suisse, homme de sac et de corde. Il était maçon. N'y soit qui mal y pense. C'est son successeur qui disait en parlant de l'évêque Carougeois, « Moi, mon seigneur et la sœur supérieure, nous ne faisons qu'en. » Et comme c'était un Suisse de Taninge, il prononçait cette phrase avec un accent qui devait rappeler aux lettrés la belle langue de mer.
Bientôt, d'autres histoires.